الشرقية عيونا روزية حبك من قلبي يا انتي عيني حبك من قلبي يا انتي عيني بنت الشرقية
Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h, nous sommes sur Radio Galère 88.4 et nous allons faire de l'émission Une heure en Palestine qui est programmée donc sur cette Radio Galère tous les mercredis de 18h à 19h et qui est reprise le lundi matin à 11h, il me semble. Voilà, c'est une émission qui est animée depuis de nombreuses années par des militants pour la Palestine, associations de soutien, donc Palestine 13, BDS, l'UJFP, etc., qui sont toutes d'ailleurs dans le collectif Palestine en résistance, qui organise certaines manifestations régulièrement. Donc aujourd'hui, c'est Palestine 13 et BDS Provence qui anime l'émission. Donc Bernard.
Bonjour Jean-Yves.
Et Jean-Yves. Donc Sidi assurant la technique aux manettes. Merci. Alors, puisqu'on est au mois de janvier, on va souhaiter une bonne année à tout le monde. Palestine 13 a envoyé un mail à tous ceux qui sont abonnés à sa lettre du vendredi, leur souhaitant une bonne année sans l'apartheid, puisque 2021 a quand même été une année un peu particulière. Pour la Palestine, c'est la première fois qu'on a entendu sur des médias mainstream le terme apartheid à propos d'Israël. Donc, suite à la dénonciation de cet apartheid par l'association B'Tselem, on va en reparler,
et même prononcé par le ministre des Affaires étrangères, voilà. Le Drian. Ça, mais je pense pas que ça soit.
Il n'a pas fait exprès.
Que ça soit reproductible. Et en même temps, je pense qu'il faut qu'il se persuade vraiment de ce que c'est, ouais. Qu'il aille sur les lieux, parce qu'il parle de loin.
Non, mais arrête. Lui, il le sait.
Non, mais il le sait par les renseignements qu'il reçoit.
Mais oui. Mais si nous, on est au courant,
nous, il y a aussi... Nous, on était un peu au courant, mais le déclenchement, c'est quand même quand on est allé en Palestine que les choses se sont passées, qu'on s'est dit « Ah oui, quand même. Ouais. » Voilà.
Mais ils savent ce qui se passe et ce n'est pas possible qu'ils ne sachent pas.
Non, mais ils le savent comme des administrateurs ou des gens qui exercent.
Ils en auraient la foutre,
quoi. Non, la géopolitique, ils ont tous les renseignements, mais ils n'ont pas le vécu.
C'est comme quand ils vendent des rafales ou des armes à l'armée égyptienne. Ils savent très bien ce qui se passe en Égypte. Quand ils vendent des armes à l'Arabie Saoudite,
non,
ils savent
attends,
très bien pour, que c'est fait pour bombarder les.
Pour l'Égypte, ils vendent des rafales, mais en plus, ils installent des radars au sol qui renseignent sur les gens qui s'installaient dans la partie ouest de l'Égypte.
Même si c'est des trafiquants.
Non, ce n'est pas des guerriers, non, voilà. ce n'est pas des terroristes. Et c'était eux qui donnaient les renseignements à l'armée égyptienne, à l'aviation, pour qu'elle aille bombarder.
Donc, ils savent, mais ils en ont rien à foutre. Voilà ce que je retiens.
Voilà. Donc, on va faire en sorte qu'ils en aient.
Donc, bonne année quand même, peut-être. On verra bien. Juste un petit mot avant. Je suis tombé à propos de... J'avais trouvé un article sur la Palestine. Sur un site qui s'appelle Révolution Permanente. Et puis, à côté de cet article, il y avait un lien vers Anas Kazib 2022, découvrez le programme de la campagne. Donc, j'ai découvert quelqu'un qui voulait se présenter à la campagne présidentielle. Et dans son programme, donc j'ai quand même regardé, qui m'a beaucoup intéressé, et j'ai trouvé... La phrase suivante. Nous soutenons le peuple palestinien dans sa lutte contre un État raciste et colonisateur et son droit à mettre en place un seul et même État, car seule une Palestine socialiste serait une issue pour que puissent vivre en paix musulmans, chrétiens et juifs. Au moins, quelqu'un qui parle de la Palestine dans son programme.
Mais voilà. il était souvent sur à la télé ou sur les chaînes quand il y avait les gilets jaunes, parce qu'il n'était pas gilet jaune complet, mais il était syndicaliste CGT.
Je le vois à son programme.
Oui. Et il n'en voyait pas dire, quoi. Oui. Donc les médias l'ont pris en affection parce que c'était un bon client, en somme.
Bien.
Voilà, il avait le look qu'il fallait et il parlait bien, il n'en voyait pas dire. Donc c'est ça, c'est le truc des médias, ça.
Mais tu vois, j'en avais jamais entendu parler parce que, bon, c'est vrai que la télé, je ne regarde pas trop. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur anaskazib2022.fr, vous trouverez le programme de ce candidat. Parmi les quelques lectures que j'ai faites ces derniers temps, je suis tombé sur un livre, j'ai lu pas mal de livres de Shlomo Sand, comment le peuple d'Israël fut inventé, comment la terre d'Israël a été inventée, etc. Et donc un autre livre, Crépuscule de l'histoire, alors j'avoue qu'il n'est pas très facile à lire par rapport aux autres que j'ai cités, mais c'est une réflexion personnelle de l'auteur sur la place de l'historien dans la société, sur la vérité et l'idéologie portée par l'histoire. Donc on a parlé, Bernard et moi, des rencontres d'Averroès pendant lesquelles il y a eu une table ronde, croire en l'histoire, sur la place de l'historien, du témoignage dans un monde qui a perdu foi en l'histoire. On aura l'occasion d'en reparler lors de notre prochaine revue de presse.
Oui, mais avec cette nouveauté quand même, ou quelque chose qui existait mais qu'on entendait moins, qu'Eyal Sivan a quand même défriché quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup, à savoir que, d'une part, il dit, oui, il y a une compétition entre les victimes, aujourd'hui. Donc, les Israéliens sont évidemment très pointilleux là-dessus pour dire les champions des victimes, c'est nous. Mais après, il dit, dans la présentation des choses telles qu'elles elles existent, globalement, dans tout ce qui se passe dans l'histoire, le réflexe de l'information, c'est de se mettre du côté des victimes, toujours. Et lui, il a dit cette chose assez extraordinaire face à la criée, au théâtre de la criée, qui était plein. Il a dit, voilà, ce qui nous intéresserait plutôt, ce serait le point de vue des bourreaux. Parce qu'eux savaient ce qu'ils faisaient, donc c'est plus intéressant d'avoir le point de vue de ceux qui agissent. Et d'ailleurs, il se rappelle qu'avec son cousin Ronnie Broman, il avait fait un film à partir du procès Eichmann. Et il a dit, ce qui m'intéressait de là, c'était qu'on pouvait enfoncer le clou avec le gars qui était le bourreau, qui disait, oui, tel jour, il y en a eu tant. Voilà. Mmh. Et donc, ce qu'avait fait un peu Lanzmann dans Shoah, il était allé subrepticement à l'époque où la vidéo était encore balbutiante, chez un ancien chef de camp, d'un camp d'extermination. Et le type, c'était pas du tout dégonflé, quoi. Il avait expliqué comment ça marchait bien, pourquoi il y avait des jours où ils en passaient 15 000, des fois que 5, suivant les arrivages. Enfin, c'est l'industrie du crime de façon délibérée.
Et Israël s'appuie sur cette victimisation. En fait, on est les petits, tout petits, le David contre Goliath, les pays musulmans qui nous entourent, etc. Voilà, aujourd'hui, il y a cette façon de faire qui pose problème. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment à la télé un petit reportage où il parlait des gens qui avaient des rescapés de la Shoah qui sont très maltraités en Israël malgré tout l'argent que l'Allemagne a versé à titre de compensation. En fait, aujourd'hui, ceux qui restent sont pratiquement dans la misère, quoi. Voilà. Donc, dans son livre, Shlomo Sand, c'était un autre livre que j'ai lu, un petit livre très, très facile à lire, Pierre Samboul, contre l'antisémitisme et pour les droits du peuple palestinien. En fait, il dit l'oppression d'une population ne peut pas justifier l'oppression d'une autre. Et la fondation de l'État d'Israël, qui a été qualifiée de colonisation d'une terre sans peuple par un peuple sans terre, a été faite aux dépens du peuple palestinien, qui n'avait rien à voir avec le génocide nazi, ni avec l'antisémitisme européen. Et par rapport à l'antisémitisme, alors on va prendre un petit peu de temps, juste une page, je lis. Dans ce petit bouquin, Pierre Stamboul parle de l'antisémitisme et comment on fait pour lutter contre l'antisémitisme qui existe depuis très longtemps chez nous. Et il dit quand Leïla Chaïd, Dominique Vidal et Michel Wacharski sillonnent la France des quartiers populaires pour expliquer ce que l'occupant inflige aux Palestiniens et prôner le vivre ensemble, ils luttent contre l'antisémitisme. Quand 60 lycéens israéliens annoncent publiquement qu'ils n'iront pas à l'armée à cause de la politique sioniste de violence brutale envers les Palestiniens, ils luttent contre l'antisémitisme. Quand les journalistes israéliens Amir Haas et Gideon Levy dénoncent inlassablement les crimes de l'armée israélienne, ils agissent contre l'antisémitisme. Grâce à eux, quand on se présente comme juif en Palestine, la réponse est « Nous sommes contre l'occupation, nous n'avons rien contre les juifs ». Quand, au nom de leur judéité, des jeunes juifs des États-Unis s'engagent dans le mouvement BDS, ils luttent contre l'antisémitisme. Quand l'UJFP s'engage avec des mouvements de Noirs, de Roms, de musulmans en France, quand elle proteste contre la dissolution du CCIF, elle lutte contre l'antisémitisme. Quand ces militants interviennent dans les quartiers sur la Palestine ou sur le racisme et qu'on leur dit « on ne savait pas qu'il y avait des juifs comme vous », ils luttent contre l'antisémitisme. Voilà, donc, lisez ce petit bouquin, hein, c'est pas très gros, c'est un petit fascicule, « Contre l'antisémitisme et pour les droits du peuple palestinien », publié par Coup pour Coup chez Sileps.
Et facilement trouvable à la librairie Transit.
Voilà, Transit à Marseille, boulevard de la Libération.
Voilà.
Voilà, donc, on va revenir aujourd'hui sur l'année 2021, qui est passé. On a parlé déjà du fait que c'est la première fois qu'on entendait parler d'apartheid sur des chaînes mainstream. Donc voilà. Alors, on peut, pour remonter un peu plus loin que 2021, j'ai trouvé sur un article de l'expressiondz.com, un article qui dit que depuis la Nakba, donc la Nakba, c'est la catastrophe pour les Palestiniens, quand ils ont été expulsés de leur terre par l'armée juive, que les Anglais avaient laissé s'armer, etc., qui était bien organisée, alors que les Palestiniens, donc les Anglais, pendant le mandat, avaient démantelé leurs dirigeants, en quelque sorte. Et il y avait eu pas mal de Palestiniens tués. Et donc, cet article dit que depuis la Nakba, en 1948, plus de 100 000 Palestiniens ont été tués par l'occupation israélienne, dont 11 000 ont été tués depuis le début de la deuxième intifada, qui a commencé en l'an 2000, jusqu'à aujourd'hui. Les forces de l'occupation ont tué 100 000 Palestiniens à travers les différentes parties des territoires palestiniens occupés, dont 357 durant l'année 2021. 2014 a été la plus sanglante, où 2240 Palestiniens ont trouvé la mort, dont 2181 dans la bande de Gaza, lors de l'agression contre l'enclave. Voilà, en 2019, le nombre de Palestiniens tués a atteint 151, 48 en 2020, et la première semaine de 2021 a été le témoin du meurtre d'un jeune homme à El Khalil. Le nombre de corps des martyrs détenus par l'occupation israélienne depuis 1968 est de 335. Alors pourquoi Israël retient les corps? Parce que ils considèrent que les musulmans, voulant enterrer leur mort le plus rapidement possible, ça les embête, les emmerde, comme dirait l'autre, en gardant les corps.
Oui, mais il y a quand même une demande des familles.
Des familles.
De récupérer.
Ah oui, tout à fait. Bon, on ne les entend pas beaucoup.
Non, on ne les entend pas, mais il y a quand même des moments où il se passe des choses étonnantes. C'est que quand ils les rendent tellement tard que ce n'est plus de la chair qui rend, oui. Il arrive qu'à l'intérieur des caisses qu'ils envoient en disant ces machins ou ces trucs, quand on fait l'étude ADN, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça. Donc en plus, il y a ça, il y a l'injure à la sépulture, quoi, le déni de sépulture. Et en plus, quand ils rendent ce qui serait les restes des gens qu'ils ont tués ou qu'ils ont emprisonnés, ils mélangent les ossements. Oui. Et ça n'est pas, ils respectent pas l'intégrité de la personne qu'ils renvoient.
Mais c'est une façon de rabaisser les Palestiniens aussi. Mais j'ai vu ces derniers jours dans la presse que donc on parle beaucoup des exactions des colons en Cisjordanie. Dernièrement, il y a un cimetière palestinien qui a été complètement détruit. On voit les cercueils cassés, les pierres tombales cassées, etc., par des colons, justement, et qui sont soutenus par l'armée israélienne qui occupe la Cisjordanie.
Oui, mais ce qu'on remarque de cette revue de presse, c'est que quand même l'action des colons s'amplifie, que ce sont devenus de véritables milices,
tout à fait,
des supplétifs de l'armée, et que personne, même ça, c'est un cran au-dessus, personne ne réagit. Ouais. En Israël, il y a peut-être Gédéon Lévy qui en parle, mais bon, disons que ça ne fait pas plus de bruit que d'habitude. Ouais. L'autre moment épouvantable de ce début d'année, c'est de savoir que l'armée a l'autorisation maintenant de tirer sur des enfants qui ont simplement une pierre à la main, et même si, avant qu'ils la jettent.
Même pas quand ils s'en vont, donc ils tournent le dos à l'armée. L'armée a le droit maintenant, s'ils supposent qu'ils ont jeté des pierres, ils ont le droit de leur tirer dans le dos avec des balles réelles, et donc ça explique le nombre d'enfants qui ont été tués. Mais quand tu parles de cette histoire des colons, il y a un ministre, alors j'ai plus le nom en tête, qui a dit mais c'est anormal que les colons, ce sont des sous-hommes, etc. Bon, il a utilisé le terme. Qu'est-ce que c'est qui a fait polémique en Israël ces jours-ci? Donc c'est pas le fait que des colons font des exactions contre les Palestiniens. On a vu déjà des gens brûlés, etc. Mais ce qui fait polémique, c'est qu'un ministre a osé traiter des juifs israéliens de sous-hommes. Voilà, on ne parle plus que de ça et on ne parle pas de ce que ces colons font. Voilà, donc toute la faute retombe sur celui qui a dénoncé quelque chose qui est contraire à toute humanité, quoi. Voilà. Bon, après ces bonnes paroles, on va peut-être passer un petit bout de musique, hein, comme ça. Ça sera fait. On va écouter une chanson de Dominique Grange, « Détruisons le mur ». Elle dit « En 2010, je suis allé chanter à Ramallah. J'ai vu dans quelles conditions les Palestiniens vivent, confinés sur ce bout de terre. L'armée d'occupation israélienne dans les rues de Jérusalem-Est et ailleurs. Les colonies squattant avec arrogance le sommet de collines volées aux Palestiniens. Et partout où je posais mon regard, j'ai vu le mur de l'apartheid, le mur de la honte. J'ai promis aux gens que j'ai rencontrés là-bas de témoigner une fois de retour en France, à la mémoire de tous les enfants palestiniens assassinés par l'armée d'occupation israélienne. » Et ça date de juillet 2014.
dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus, la mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra. Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoigne de ce qu'ils t'ont volé. Petit, ton pays, ton histoire. Petit, ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahed et Zakaria et Muhammad et Ismaïl? Petit, l'occupant est sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui, mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi combien de temps encore pour que mon peuple se libère. Mon peuple exclu, saigné à mort, dans sa prison à ciel ouvert. Petit, résiste à l'oppresseur, comme Barghouti et Georges Abdallah. Chasse les colonisateurs, comme l'a fait Nelson Mandela. Comme l'a fait Nelson Mandela. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza. Palestine vivra, Palestine vaincra. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza, Palestine. Palestine vaincra. Palestine vaincra.
Voilà cette chanson de Dominique Grange. Donc on va continuer à parler de 2021 et de ce qui s'est passé. Et donc il y a le BNC. Donc le BNC, c'est le Comité National Palestinien, celui qui a lancé en 2005 l'appel au boycott, désinvestissement, sanctions, BDS. Et donc ils ont passé un communiqué. Nous nous souviendrons longtemps de 2021. Comme l'année où la désignation d'Israël comme état d'apartheid a commencé à se généraliser. Malgré l'intensification des massacres et le nettoyage ethnique des communautés autochtones palestiniennes par Israël, la solidarité avec notre lutte de libération a été tout simplement sans précédent en 2021. Et donc nous allons citer les 21 temps forts de cette solidarité.
Et pour en rajouter sur ce que tu dis, ce qui a, moi, m'a impressionné, c'est qu'au mois d'octobre, je crois, Charles Anderlin a dit une chose incroyable. Il a dit, qui sait, qui maintenant, aujourd'hui, défend la Palestine ? C'est BDS. Sous-entendu, l'autorité palestinienne, n'en parlons plus. Et voilà. Donc, ça fait plaisir de voir que l'ancien correspondant de la télévision française, d'une des chaînes de télévision française pour la Palestine, enfin pour le Moyen-Orient, pour Israël, prend cette décision de dire, au fond, le seul qui défend BDS.
Mais je pense que, bien que certains le traitent de sioniste, ce qu'il est par ailleurs quand même quelque part, il a toujours été plus ou moins honnête, et effectivement, bon, pour avoir lu pratiquement tous ses livres, c'est très intéressant parce qu'il raconte les dessous de ce qui s'est passé. Quand on pense par exemple à la rencontre entre Ehud Barak et Arafat, donc qu'en fait Ehud Barak, il a dit, on a proposé quelque chose aux Palestiniens qu'ils ne pouvaient pas refuser, ils ont loupé le coche et on n'aura jamais quelqu'un de sérieux en face de nous. Donc voilà, il a dit qu'en fait, c'était de la propagande israélienne pure. Quoi.
Oui, je me souviens très bien de ça. C'était à Camp David avec Clinton. Voilà. Et la réponse avait été celle-là. Ouais. On vous donne 93% de la Cisjordanie et vous vous plaignez.
Alors, donc, on va voir un peu ces 21 points.
Alors, le premier, c'est un rapport qu'on peut considérer comme novateur de Human Rights Watch, qui a expliqué comment les politiques d'Israël à l'égard des Palestiniens s'apparentent à des crimes contre l'humanité, de persécution et d'apartheid. Plus tôt cette année, la plus grande organisation israélienne de défense des droits de l'homme, B'Tselem, était parvenue à la même conclusion dans son rapport intitulé « C'est l'apartheid ». Le régime israélien promeut et perpétue la suprématie juive entre la mer Méditerranée et le Jourdain.
Cette précision entre la mer Méditerranée et le Jourdain est importante parce que, effectivement, B'Tselem avait dit c'est pas simplement un état d'apartheid en Cisjordanie où c'est quand même évident que les Arabes et les colons sont séparés par des murs, par des checkpoints, etc. Mais ils avaient dit aussi, même sur le territoire d'Israël, c'est-à-dire à Tel Aviv, etc., au nord, au sud, les Arabes, les Palestiniens israéliens, qui vivent donc depuis, qui sont les descendants de ceux qui ne sont pas partis en 1948, sont aussi discriminés, et c'est aussi envers eux un état d'apartheid. Et il s'appuie en particulier sur la loi qui a été votée en 2018, sur la loi sur le peuple juif, l'état du peuple juif.
De juillet 2018,
voilà,
oui.
Où les juifs ont tous les droits et les arabes...
Mais je crois que la question, la dénomination des populations arabes d'Israël, il faut en finir avec les Arabes d'Israël, parce que...
C'est les Palestiniens israéliens.
Voilà, c'est les Palestiniens israéliens. Mm-hmm. Comme ça, c'est plus près de la réalité. Oui. Et en même temps, quand il y a un peu des soubresauts, que ça... Parce que là, rappelle-toi qu'au moment
En 2021, il y en a eu.
Voilà, il y a eu quelques petits mouvements mm-hmm. qui ne correspondaient pas du tout à la tranquillité mm-hmm. à laquelle on était habitué, parce que ils sont évidemment pas des citoyens à part entière, mmh. mais ils ont quand même beaucoup plus d'avantages que ceux qui sont de l'autre côté du mur.
Mais tu as raison, on devrait toujours faire attention aux termes qu'on utilise, parce que arabe d'Israël, c'est en fait une appellation qui a été mise en place par les Israéliens mmh. pour dire, mais ce ne sont pas des Palestiniens, ce sont des Arabes. Mmh. Alors qu'en fait, ce sont des Palestiniens, ils vivaient là depuis des générations, quoi. Alors, autre point qui, en 2021, a fait la différence, 10 anciens présidents et plus de 700 parlementaires, maires, figures culturelles et universitaires d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique, ont appelé les Nations unies à condamner Israël en tant qu'État d'apartheid et à lui imposer des sanctions légales. On remarque dans cette liste, dans cette énumération, l'absence de l'Europe et des États-Unis. Bien entendu.
Oui, mais globalement, je me rends compte que, enfin, je me rends compte, c'est presque une évidence, que le monde géopolitique est formé comme il l'est, mais que ne peuvent agir que ceux qui ne sont pas impliqués dans la géopolitique globale. C'est-à-dire que la Finlande, l'Islande, bon, ça peut le faire. Mais un pays comme la France, un pays comme la Grande-Bretagne, un pays comme l'Italie, bon, ils sont coincés à cause des alliances qu'ils ont, à cause des relations qu'ils ont avec les autres pays ou leur place exacte ou supposée dans le monde.
Mais donc, Israël étant un poste avancé de l'Occident, entre guillemets, Europe, États-Unis, c'est vrai que l'Occident, en fait, ne réagit jamais contre lui, ou très rarement, hein, sans parler de l'attitude absolument de soutien des États-Unis.
Non, mais la Suisse, par exemple, qui est un pays neutre, hein, qui oui. est engagé nulle part, pourrait réagir, par exemple. Oui. Comme disait très bien Eyal Sivan aux rencontres d'Averroès, il disait, imaginez Israël, imaginez le Luxembourg entouré de pays musulmans. qu'est-ce qui se passerait oui. Voilà, pour bien signifier que, dans ces cas-là, Israël se retrouve dans une situation qui n'est pas du tout favorable, du point de vue géopolitique, mais aider et
avec le soutien de l'Occident.
De l'Occident. Et puis après, arrivant à corrompre les monarchies.
Les monarchies.
Bien sûr. Ensuite, alors, le plus grand fonds de pension norvégien, KLP, a exclu 16 entreprises en raison de leur complicité avec les colonies illégales d'Israël et les violations des droits de l'homme en Israël. Alors ça, c'est pas mal, ça, aussi.
Parmi donc toutes les avancées du BDS, donc, lors de sa dernière conférence, le Parti travailliste britannique a massivement condamné Israël comme état d'apartheid et a appelé des sanctions à son encontre.
Alors là, il faut se souvenir de ce qui a précédé. Oui. À savoir que l'ancien
secrétaire général du
ou président du Parti travailliste, je ne dis pas qu'il a perdu les élections à cause de ça, mais il s'est fait traiter d'antisémite du début à la fin de la campagne, en alléguant qu'il était un ancien trotskiste, donc on comprenait très bien. Voilà.
C'est ce que fait, c'est la stratégie d'Israël de traiter d'antisémites tous ceux qui critiquent plus ou moins ce qui se passe en Israël.
Alors, le Congrès du travail du Canada a approuvé l'interdiction des produits issus de la colonisation, encourageant le désinvestissement des entreprises militaires et de sécurité israéliennes, et appelant le Canada à imposer un embargo militaire sur Israël. Avec aussi 39 organisations syndicales représentant des centaines de milliers de travailleurs à travers le Canada, ont exhorté le gouvernement de Justin Trudeau à suspendre immédiatement le commerce militaire avec Israël.
Alors, autre chose, Ben & Jerry's, qui est une grande marque de classe aux États-Unis, a annoncé qu'il ne renouvellerait pas son accord de licence avec son licencié israélien et mettrait fin aux ventes de ses glaces dans les colonies illégales d'Israël sur des terres palestiniennes volées. Tous les termes sont importants là-dedans.
Oui, et puis Ben & Jerry's, il ne faut pas rigoler. Hein. C'est une entreprise multinationale installée à South Burlington, dans l'état du Vermont, qui est devenue en 2000 la propriété d'Unilever, c'est-à-dire un mastodonte américain.
Si Unilever boycotte aussi Israël,
voilà,
ça peut aller loin.
Et voilà, voilà, c'est ce que je voulais signaler. Alors, la Norges Bank, qui gère les plus grands fonds de pension du monde, a exclu trois entreprises impliquées dans le système colonial et d'apartheid d'Israël. Suite à la campagne menée par les partenaires de BDS en Norvège, notamment les syndicats. Alors on voit là encore, ça renvoie un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, la Norvège aussi, tu vois. Mmh. C'est-à-dire qu'il peut se passer des choses en Norvège. Ça n'empêche pas Israël de tourner. Hein. Voilà.
Le fonds de pension Lothian, le deuxième fonds de pension des autorités locales d'Écosse, avec 84 000 membres et 8 milliards de livres sterling d'actifs, s'est séparé de la banque israélienne Hapoalim.
Le gouvernement irlandais, devenu le premier de l'Union européenne, a déclaré que les colonies illégales d'Israël sur les terres palestiniennes occupées constituent une annexion de facto.
Le Parlement chilien a introduit un projet de loi visant à interdire l'importation de produits israéliens provenant des colonies illégales. Ils vont plus loin que l'Europe, qui se contente de dire qu'il faut les étiqueter en tant que tels, ce qui n'est même pas fait.
C'est jamais fait.
Voilà, mais
jamais.
Bon, c'est toujours marqué Israël.
Des milliers d'artistes et de personnalités culturelles, dont des stars hollywoodiennes, des musiciens de premier plan, des artistes contemporains visionnaires, des auteurs renommés et bien d'autres, ont approuvé le désengagement du secteur culturel, complice de l'apartheid israélien. Donc là, on est dans la partie culturelle
du BDS.
Du BDS. Alors, je vais vous donner quelques noms quand même, parce que c'est pas négligeable. Les stars hollywoodiennes, on peut parler de Richard Gere. Il y a quelqu'un qui est un champion automobile de Formule 1, Lewis Hamilton. Après, on a un sportif qui est aussi un artiste, Eric Cantona. On a l'acteur du film Le Prophète, Tahar Rahim. La grande chanteuse, Patti Smith. Roger Waters, le chanteur des Pink Floyd, le cinéaste Ken Loach, le groupe Massive Attack, qui est un de mes groupes préférés, Elvis Costello, un rocker, Ernest Pignon Ernest, qui est le premier street artiste au monde. C'est celui qui a commencé quand il peignait, il faisait des dessins qu'il collait sur les murs. Directement, c'était pas de la peinture, c'était du papier. Et puis enfin, le permanent défenseur des Palestiniens, Jean-Luc Godard.
À propos du boycott culturel, il y a une polémique qui, en ce moment, qui tourne. C'est à propos de la présentation par l'Institut du Monde Arabe et Jack Lang de certaines œuvres israéliennes qui ont été prêtées par Israël. Et donc, il y a cette polémique aujourd'hui parce que celui qui a choisi les œuvres, en fait, il a eu des paroles un peu bizarres quand il parlait il ne mettait pas sur le même plan Israël et la Palestine, alors qu'il y avait des choses qui venaient de Palestine. Oui. Donc, le boycott culturel, c'est un de ceux qui font le plus polémique. Sachant qu'aujourd'hui, le BNC, le Bureau national du BDS en Palestine, dit à partir du moment où Israël, l'État d'Israël est impliqué dans une manifestation, il faut la boycotter.
Voilà. Ouais, et évidemment, on le sait, arriver à convaincre de ce côté-là, c'est très compliqué parce qu'on a toujours, c'est comme pour le sport, l'art n'a pas à être politique, le sport n'est pas politique. Bon, on sait, nous, que c'est pas vrai. Oui. Mais il y a cette... pardon, il y a ce logos dans la tête de pas mal de gens. Et c'est très difficile à aborder cette question. Il n'empêche que je me souviens très bien d'un truc qui avait été fait à l'époque du président. C'était Pompidou qui était président. Il y avait eu un truc comme ça où les artistes on leur avait fait faire quelque chose qui n'était pas prévu dans le programme. Je ne m'en rappelle plus ce que c'était. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord étaient rentrés dans la salle où les œuvres étaient exposées et avaient décroché leurs œuvres et étaient partis. Mmh. Et là, c'est ce que les Palestiniens, ceux qui n'étaient pas d'accord ont menacé de faire, c'est-à-dire d'aller décrocher leurs œuvres. Voilà. Alors, quant à Jacques Lang, je crois que là, c'est indécrottable, quoi. C'est-à-dire que la haute bourgeoisie française considère que ça rentre pas en ligne de compte. Et que l'art pour l'art est toujours présent.
Mais c'est quand même Israël qui met en avant, qui instrumentalise la culture et le sport aussi. On le voit avec les équipes de Israël Startup Nation qui sont intervenues dans le Tour de France. Donc, en fait, ils essaient de promouvoir une image idéalisée de leur pays à travers le sport et à travers la culture aussi. Et ce qui est regrettable, c'est quand même que chez nous, on accepte ce genre de truc. Je me souviens aussi, il y a 5 ou 6 ans, il y avait eu une histoire au Théâtre National de Provence, la Aix. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il s'appelle.
Au GTP, oui.
Voilà, au Grand Théâtre de Provence. Et en fait, il y avait un orchestre de jeunes Palestiniens qui devait se produire. La manifestation était très bien, sauf que, en fait, j'y suis allé et il y a le responsable de cet orchestre qui a expliqué que, en fait, les organisateurs, donc, ils avaient été, on leur avait mis la pression pour que, en fait, ils fassent un coup, puisqu'ils invitaient un orchestre palestinien, il fallait qu'ils invitent aussi un orchestre palestinien. C'était une manifestation de jeunes. Ils ont invité un orchestre israélien qui n'était pas des jeunes, donc ça n'avait rien à voir. Et voilà, c'est un peu, je crois que c'est toi qui as cité ça notre dernière revue de presse.
C'est l'objectivité à la française.
C'est 5 minutes pour les nazis, 5 minutes
pour les juifs.
Pour les juifs.
L'objectivité, c'est...
C'est le journalisme.
Et c'est vrai, dans toutes les manifestations dites culturelles présentant la question palestinienne en France, à la télé ou ailleurs, on a la Palestine, mais il faut faire l'équilibre en mettant une manifestation ou des artistes israéliens qui fassent, comme on dirait, contrepoids, comme s'il y avait égalité.
C'est un peu comme quand les journalistes demandent à... Mélenchon ou autre, mais vous reconnaissez quand même qu'Israël a le droit de se défendre. Voilà, ben oui, bien sûr, mais on ne devrait pas commencer par ça, on devrait parler des crimes qu'ils commettent avant de parler de leur droit à se défendre contre qui, quoi. Voilà. Alors,
12.
On en est au point 12. 30 partenaires répartis dans 13 villes sur 4 continents ont organisé Queer Cinema for Palestine, un festival de films homosexuel sans précédent, qui rejette le pinkwashing de l'apartheid israélien. C'est très, très utilisé par le maire de Tel Aviv, qui dit que sa ville, c'est la capitale des LGBTQ+, je ne sais pas quoi. L'association... et plus de 200 cinéastes homosexuels se sont engagés à ne pas participer aux événements parrainés par le gouvernement israélien. On est bien là dans le boycott du gouvernement de l'État et pas dans le boycott d'Israéliens ou de Juifs ou de tout ce que l'on veut.
Oui, mais ce que Omar Marghouti, l'initiateur du BDS, dit aujourd'hui, c'est que si on est pour la défense des LGBT, on est aussi pour la Palestine. Le progressisme social ne peut pas ne pas s'accompagner du soutien à la Palestine. Enfin, là-dessus, moi aussi, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que si on dit des choses comme ça, on est dans un camp presque irréconciliable avec à la fois la droite, l'extrême droite et la grande bourgeoisie française. Donc, il faut ajouter à chaque fois la Palestine. La Palestine. Voilà. Plus de 350 départements, centres, syndicats et sociétés universitaires dans le monde, ainsi que 23 000 universitaires, étudiants, membres du personnel universitaire, ont déclaré soutenir les droits des Palestiniens et beaucoup ont appelé à la campagne BDS. L'association d'étudiants de l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève est devenue la première association d'étudiants suisses à soutenir le mouvement BDS
et a déclaré ça. Oui, il y a une version.
Et a déclaré zone libre.
Zone libre d'apartheid.
D'apartheid.
Donc l'université de Brasilia et l'université du Costa Rica ont adopté des résolutions historiques déclarant qu'elles n'entretiendront aucun lien avec les entreprises complices du régime militaire de colonialisme et d'apartheid d'Israël.
Le congrès du personnel de la City University de New York, qui représente 30 000 membres, a condamné Israël comme État colonisateur et d'apartheid. Le conseil d'administration et les rédacteurs en chef de la New York University Review of Law and Social Change ont voté en faveur du mouvement BDS et du boycott des institutions universitaires israéliennes complices.
En fait, quand on parle de boycott des institutions israéliennes et des universités, il y a aussi le boycott de l'université de Jérusalem qui est installée en territoire occupé. Et donc, voilà, aujourd'hui, Israël occupe, colonise et partout. Et il est demandé aussi par le BNC aux intellectuels et aux scientifiques occidentaux de boycotter cette université, d'éviter d'avoir des actions avec elle. L'Europe lui donne un pognon fou quoi, pour mener des études, y compris des études qui servent après pour l'armée, pour opprimer encore plus les Palestiniens. Donc, plus de 130 organisations mexicaines de défense des droits civils ont exigé que Cemex mette fin à sa complicité avec l'apartheid israélien.
Le fonds de soutien de l'East Sussex s'est désengagé d'Elbit Systems, le plus grand fabricant d'armes privées d'Israël.
Alors, Elbit, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Angleterre, ils sont attaqués par un certain nombre d'associations pro-palestiniennes. Et dernièrement, j'ai vu qu'ils ont décidé de fermer une usine qu'ils ont dans le sud de l'Angleterre. Donc, grande victoire du BDS, là encore. Le Centre international de solidarité ouvrière, importante coalition de plus de 60 syndicats québécois et de groupes de la société civile, a approuvé à l'unanimité le BDS et a exhorté le gouvernement canadien à désigner Israël comme un État d'apartheid.
Dans sa convention annuelle, l'Église épiscopale du Vermont s'est élevée avec force contre l'oppression des Palestiniens par Israël, soutenue par les États-Unis, condamnant par une majorité de 89
contre 25
les politiques d'apartheid israéliennes. Alors, attends. Le match amical entre le FC Barcelone et le club israélien Betar Jérusalem, connu pour les chants « Mort aux Arabes » de ses supporters, a été annulé. Alors là, je vous explique, j'en fais une petite parenthèse, parce que le président du club du Betar, qui est un affreux, s'est dit, voilà, on va payer encore. Mais le Barça, il est peut-être plus riche que lui, donc ouais. Il a aussi un peu des marges de manœuvre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, voilà, vous venez et on fait un match amical entre le Betar et vous, à Jérusalem, évidemment. Et le Barça a dit, ah ben non, ça ne marche pas, parce que Jérusalem, ce n'est pas un endroit comme vous croyez, ce n'est pas chez vous. C'est un endroit qui n'est pas totalement découpé pour vous. Il y a d'autres forces, il y a d'autres tendances. Donc, ils ont dit, écoutez, si c'est ça, on ne peut pas. Et alors, le gars, au lieu de dire, on va... Oui, parce qu'il voulait les faire jouer. Les autres ont dit, à la rigueur, on joue à Tel Aviv. Oui. Et le gars a dit, non, c'est à Jérusalem que vous jouez. Et donc, ça, le match n'a pas eu lieu. Voilà, ça, c'est pas mal parce que le Barça, c'est une grande équipe de football, mais c'est aussi un pouvoir financier énorme. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même, eux aussi, malgré tout, une ligne, une forme intègre de pensée sur la question. Alors ensuite, le Qatar Sports Club, club de première division, s'est engagé à ne pas renouveler son contrat avec Puma, alors que des appels au boycott de Puma ont été lancés en raison de sa complicité avec l'apartheid des Israéliens. Un nombre sans précédent d'athlètes qui sont des stars ont courageusement exprimé leur solidarité avec la lutte palestinienne contre l'apartheid dans les stades et auprès des millions de followers et sur les réseaux sociaux.
Le boycott de Puma, dans lequel BDS Provence est très impliqué aussi.
Voilà, très impliqué. Ouais. On se rappelle de Paul Pogba, l'international de l'équipe, le milieu de terrain de l'équipe de France, faire le tour d'un stade avec le drapeau palestinien. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des gens où des joueurs d'origine... d'Afrique du Nord, sont très, très...
très impliqués.
Très, très impliqués. Mmh. Surtout quand ils jouent dans des grands clubs anglais. Donc, ça a toujours un impact.
Et enfin, un dernier point mis en avant par le BNC. La députée finlandaise Veronica Honkasalo a soumis au Parlement un projet de loi qui vise à interdire l'importation de tout produit fabriqué dans les colonies israéliennes illégales. Voilà, donc les BDS avancent. On va passer un deuxième morceau de musique. Et là, je vais vous passer un morceau de Tamer Nafar. The Beat Never Goes Off. Et donc, en fait, c'est un des principaux musiciens palestiniens. Il est le parrain de la scène hip-hop arabe, acteur, scénariste et, de son propre aveu, un mec cool, tout simplement. Donc, il est originaire de Lydd, en Israël. Et The Beat Never Goes Off est sorti en septembre. Et donc, voilà, il rappe devant le mur de l'apartheid israélien qui sépare les familles palestiniennes les unes des autres. On écoute. There was a tank attack. There was a gas attack. Never a heart attack. Because the beat never goes off. The beat never goes. The streets never goes. Middle East never goes. The beat never goes off. I'm a little Abu Antar, little Black Panther. Ala little Hamza, little Biggie, little Pac. Atukan Fatwa, Malcolm in the middle, East. Let the truth come, flow pure, zamzam. I have a clean Dr. King, Abu Tanklan. Shoot, your lyrics to bang bang. I spit in three lingos, my lyrics to gang bang. A1, mic check, Wahad one, name two. Fight the occupation, coming straight from the curfew. Smack it like snares do, sick flag, bird flu. Stay true, true. No, we don't talk blank. We burn tires and it's harder than your gold ring. You wanna talk blank, cause I can talk blank. Like Tina Fey, we carry 30 rocks more. There was a tank attack. There was a gas attack. Never a heart attack. Because the beat never goes off. The beat never goes. The streets never goes. Middle East never goes. The beat never goes off. Maybe I'm an African. Let me rephrase it. I wasn't taken to a land, but my land was taken. Maybe native, let me erase it. Unsacred to dance naked, asking where the rain is. Maybe I am nameless, faceless, even better, raceless. Maybe fishery ain't nothing but a steep thing, baby. So I get down with it. And for fellas to neck, we're pronouncing it. So I get down with it. From the tunnels of Gaza, what's more on the ground than this? Alors, on va terminer avec quelque chose de très important. 2021 a été l'année la plus meurtrière pour les enfants palestiniens depuis 2014. 86 enfants palestiniens ont été tués dans le territoire palestinien occupé depuis janvier, faisant de 2021 l'année la plus meurtrière. Les forces israéliennes ont tué 76 enfants palestiniens, dont 61 dans la bande de Gaza et 15 donc en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Des civils israéliens armés, tout à l'heure tu parlais de milices avec les colons, ont tué 2 enfants palestiniens en Cisjordanie. 7 enfants palestiniens ont été tués par des roquettes tirées à mauvais escient par des groupes armés palestiniens. Donc c'est des choses qui arrivent aussi. Et un enfant palestinien a été tué par un engin non explosé dont on ne connaît pas l'origine. Les forces israéliennes ont tiré et tué 17 enfants palestiniens à balles réelles cette année. Au moins 9 ont été abattus dans le cadre de confrontations ou de manifestations avec les forces israéliennes et ne présentaient pas de menace directe de mort ou de blessures graves au moment où ils ont été abattus.
Mais ce qu'on peut ajouter, c'est qu'en vertu du droit international, la force létale intentionnelle n'est justifiée que dans des circonstances où il existe une menace directe de mort ou de blessures graves. Cependant, les enquêtes et les preuves recueillies par la DCIP suggèrent régulièrement que les forces israéliennes utilisent la force meurtrière contre des enfants palestiniens dans des circonstances qui peuvent être assimilées à des exécutions extrajudiciaires ou volontaires.
Donc ça a un rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure à propos des instructions qui stipulent que l'armée autorise désormais ses soldats à tirer sur des Palestiniens qui lancent des pierres, même après la fin des actes de jet de pierres et pendant le retrait des jeunes. Lors de l'assaut militaire israélien sur la bande de Gaza en mai 2021, les forces israéliennes ont tué 60 enfants palestiniens. Au cours de cet assaut militaire de 11 jours, elles ont tué des enfants palestiniens en utilisant des obus tirés par des chars, des balles réelles et des missiles largués par des drones armés, des avions de guerre. Donc les avions de guerre et les drones armés ont bombardé des zones civiles densément peuplées, tuant des enfants qui dormaient dans leur lit, qui jouaient dans leur quartier ou faisaient leurs courses dans les magasins proches de chez eux et célébraient l'Aïd al-Fitr. Donc c'est l'absence de volonté politique de la communauté internationale de demander des comptes aux responsables israéliens garantit que les soldats israéliens continueront à tuer illégalement des enfants palestiniens en toute impunité.
Parce que le droit international humanitaire interdit les attaques indiscriminées et disproportionnées et exige de toutes les parties à un conflit armé qu'elles fassent la distinction entre les cibles militaires, les civils et les objets civils. Israël, en tant que puissance occupante dans le territoire palestinien occupé, y compris la bande de Gaza, est tenu de protéger la population civile palestinienne contre la violence.
Voilà. C'est des choses, tu ne vas pas me dire que nos ministres, nos chefs d'État, ministres des Affaires étrangères ne sont pas au courant de ça.
Mais si, parce qu'on
tue illégalement des enfants.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont tous signé des deux mains ces règles pour ne jamais les appliquer.
Pour ne jamais les appliquer.
Voilà.
Bien, donc on a fini cette revue de presse de 2021 et on vous donne rendez-vous au mois prochain. Merci à toute l'équipe et à bientôt.
Merci Sidi et au revoir.
Au revoir Bernard.
À bientôt. Bintish Shalabi.